L'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017 a été le symbole du dégagisme et de l'arrivée d'une nouvelle génération au pouvoir. Gouvernement d'illustres inconnus pour le grand public prennent les manettes du pouvoir. Certains vont rester inconnus, d'autres non. C'est le cas de Marlène Schiappa, occupation tout azimut de l'espace médiatique, du tweet en plateau de télé en passant par TikTok. L'ex-secrétaire d'État et aujourd'hui ministre délégué a été l'une des révélations de ce quinquennat, l'une des plus remarquées médiatiquement, l'une des plus critiquées aussi. Ça va souvent avec un activisme médiatique qu'elle met au service de ses engagements. Et l'engagement, c'est justement l'objet d'un podcast disponible sur Magellan depuis hier, podcast dans lequel la ministre fait sa masterclass. Elle est avec nous. Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
Merci d'être en direct.
Merci
sur Europe 1. Vous êtes ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté. Vous sortez donc ce podcast produit par Magellan, disponible depuis hier, Osez l'engagement. C'est un format inédit pour un membre du gouvernement ?
Absolument, mais l'idée c'était de faire un podcast qui a un format long. Et donc Magellan, qui est une boîte qui fait de la production de podcasts et qui est dirigée par Mathieu Gallet, a décidé de faire des masterclass. Vous avez Inès de la Fressange ou Maurice Lévy, le patron de Publicis, qui font des choses sur la création, etc. Et nous, ensemble, on a choisi de faire quelque chose sur l'engagement. Donc vous avez 6 épisodes. Et l'idée, c'est de dire que j'ai été militante, bénévole, présidente d'association, élue locale, ministre. Et donc j'échange, ou je donne en tout cas, je fais part de mon expérience pour des personnes qui souhaiteraient s'engager, défendre des causes qui leur tiennent à cœur et qui ne savent pas toujours comment s'y prendre.
C'est eux qui sont venus vous chercher, vous avez dit oui tout de suite ?
On a échangé et l'idée c'était de... Oui, on s'est dit que c'était intéressant de partager justement ce qui est le fil rouge en fait de ma trajectoire, qui est la question de l'engagement, défendre des valeurs, soit l'égalité femmes-hommes, la question de la laïcité, la situation des femmes, l'intégration des réfugiés, voilà, tout ça ce sont des causes. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager, de moins en moins de gens qui votent d'ailleurs, c'est un paradoxe. En France, il y a beaucoup de pétitions, de manifestations, de causes et élection après élection, les gens votent de moins en moins. Et donc l'idée de ce podcast, c'est aussi ça, c'est aussi dire comment on passe d'un engagement théorique à un engagement, et est-ce que l'engagement politique vaut la peine ?
Avant qu'on parle du fond, une question média, on parle de communication ici dans cette émission, beaucoup. Est-ce que vous avez demandé l'autorisation pour y participer ? Est-ce que vous avez prévenu quelqu'un à Matignon ou à l'Élysée ?
Alors moi, je préviens toujours de ce que je fais, et pour être très honnête, j'ai une phrase qui m'est propre, qui est « sauf no go ». C'est-à-dire, je vais faire ça, sauf no go.
Donc si on vous dit rien, vous y allez ?
Sauf no go. S'il n'y a pas de no go, je fais.
Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Vous dites dans ce podcast que vous savez attirer les médias. Vous l'avez toujours su. Ou est-ce que c'est un domaine dans lequel vous avez progressé et vous avez appris chemin faisant ?
Non, honnêtement, j'étais la première quand j'ai monté mon association Maman Travail et mon blog, ça a tout de suite cartonné parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui sont venues et parce que les médias se sont intéressés tout de suite à ce
sujet. Je souris parce que je pense à votre première association où le nom était tellement complexe, vous passiez plus de temps à expliquer le nom que le travail de votre association.
Exactement, c'est ce que je raconte dans le podcast, qu'on apprend de ses erreurs. Moi, j'avais monté un site qui s'appelait lespassionnariats.com. Alors, les gens entendaient à la radio, personne ne savait s'il y avait deux S, deux R, un I, où est-ce qu'on trouvait ça, qu'est-ce que ça voulait dire, de quoi ça parlait. Et je me suis dit qu'après, j'allais faire quelque chose de percutant. Et Maman Travail, on comprend tout de suite de quoi ça parle.
C'est une maman.
Ça a expliqué aussi le succès, je pense, de l'association.
Exactement. C'est une maman et elle travaille. C'est exactement comme Culture Média. De quoi ça parle ?
C'est
de
ça.
Culture et de médias.
Voilà.
C'est pas la peine de chercher plus loin. Basique, on parlera d'Orelsan justement tout à l'heure. C'était pour faire le lien avec ce qui va suivre. Votre podcast s'appelle Osez l'engagement. Mais à vous écouter, l'engagement politique est plus compliqué à assumer que l'engagement associatif.
Oui.
Vous dites même que la politique est impure pour les gens. Mais alors pourquoi vous continuez ?
Oh, pour plein de choses. D'abord, oui, sur le constat, c'est clivant. Voilà, ce mot qu'on utilise souvent, la politique, c'est clivant par nature. Moi, je faisais des choses quand j'étais à la tête de mon association. J'étais invitée dans les médias, tout le monde me disait que c'était formidable ce que je faisais. Je faisais le trésor d'Élise Lucet. Élise Lucet me disait « Mais bravo, quel bel engagement, vous êtes tellement nature, c'est génial, etc. » J'ai fait la même chose, mais en ayant l'étiquette « membre du gouvernement », l'étiquette « politique ». Et là, c'est devenu « Oulala, c'est politique, mais on est contre ». Et en gros, les politiques, faut les critiquer. C'est-à-dire tout le monde a tellement peur d'être complaisant vis-à-vis des responsables politiques qu'il y a une espèce d'agressivité d'office. Parce que vous avez l'étiquette politique et spécialement membre du gouvernement. Et moi, je continue parce qu'on a justement le pouvoir d'agir, de faire des lois, de changer des choses, d'aider des gens.
Vous avez une manière assez particulière de travailler et vous l'explicitez, c'est presque du métalangage. L'épisode 4 de votre podcast que j'ai écouté s'intitule « Prendre la parole ». Vous expliquez que vous avez appris justement à prendre la parole en interview et que la règle, c'est une interview, un message. S'il y a trop de messages, dites-vous, c'est brouillé, on ne comprend pas.
Ouais.
Donc, quel était le message que vous vouliez faire passer en venant ici, dans ce studio ?
Osez l'engagement. tout simplement.
Alors vous dites, j'apprends à faire fi des questions et à passer mon message. Vous n'avez pas de considération pour les journalistes en face de vous?
Désolée, non, j'ai énormément de considération.
Soyez franche, alors dites, alors, je vais vous dire ce que vous dites. Vous dites, écoutez, c'est le fameux, vous êtes venu avec vos questions et moi je suis venu avec mes réponses.
Ouais.
Et vous dites, il ne faut pas écouter les questions, on répond ce qu'on a envie de répondre.
Ce n'est pas qu'il ne faut pas écouter les questions, c'est que parfois, et je vais vous le dire très honnêtement, d'abord moi j'ai été journaliste et la liberté de la presse est pour moi un fondement de la démocratie, ouais. Je respecte beaucoup les journalistes au contraire. Mais parfois on vient par exemple dans une matinale et on vient pour annoncer quelque chose, pour parler de notre action. Je viens dire, j'ai créé un bureau de la laïcité, c'est la première fois qu'il y a d'administration, etc. Et on m'interroge pas là-dessus et on va me poser des questions pour que je fasse des commentaires. Et moi je veux pas venir faire des commentaires de l'actualité. C'est pas mon travail, je suis pas éditorialiste, je suis ministre. Et je pense que ça contribue à la défiance vis-à-vis des responsables politiques, de se dire on va prendre les responsables politiques que quand ils ont des annonces à faire et on va les prendre pour faire des commentaires.
Ce podcast est construit comme une masterclass, mais vous n'hésitez pas à parler des ratés, des choses qui n'ont pas marché. Vous racontez que vous n'êtes pas un robot, qu'il vous est arrivé de pleurer à la sortie d'un conseil des ministres. Ouais. Pourquoi raconter cette anecdote, ce moment de faiblesse ?
D'abord parce que ça a été raconté dans la presse. La politique n'est pas un milieu bienveillant. Vous avez des collègues sympas qui vous tapent dans le dos, qui vous soutiennent, etc. Et moi, quand c'est arrivé, j'ai eu plein de ministres qui m'ont encouragé. Florence Parly, Christophe Castaner, Nicole Belloubet, beaucoup d'autres.
Il s'était passé quoi?
Qui m'ont soutenu.
C'était quoi l'incident?
C'était pas un incident, en fait. C'est un trop-plein d'émotions à un moment parce que j'avais passé la matinée tôt avant le Conseil des ministres à recevoir des familles victimes de féminicides. Et en fait, quand vous êtes ministre, et surtout quand vous êtes sur des sujets comme aujourd'hui le terrorisme, etc., et précédemment les féminicides, vous recevez souvent des gens endeuillés, des gens qui ont vécu des drames, et parfois qui peuvent faire écho aussi à des choses que vous avez vécues vous-même, ou des choses que vos amis ont vécues. Et j'avais vraiment... il y avait un conseil des ministres qui était un peu long, c'était une période de Covid, et je n'ai pu parler que très brièvement des rencontres que j'avais faites et des actions qu'on menait. J'avais cette espèce de frustration. Et à la toute fin du conseil, vraiment à la fin, en pliant les trucs, je sens que j'ai les larmes aux yeux. Et je me dis, oh là là, j'arrive plus à me retenir en fait. Parce que je pense à tout ce que m'ont dit ces familles et ces femmes le matin et j'aurais tellement voulu pouvoir le relayer. Et ça n'a pas été possible sur ce moment-là. Je l'ai fait au conseil des ministres suivant, mais voilà, c'est juste un moment de faiblesse. Oui.
Et c'est d'autant plus ambivalent que dans le podcast, vous dites, je n'ai pas le droit de pleurer en regard de ce qu'ont vécu ces familles.
Pas devant les gens, en fait, quand on reçoit des gens qui ont reçu des drames. Moi, je me mords la langue un nombre incalculable de fois pour me dire c'est leur drame. J'ai pas le droit d'avoir une manifestation. Voilà, je peux être que dans la résolution de leurs problèmes et pas dans l'émotion.
Je me rends compte qu'on n'a pas encore passé un seul extrait de votre podcast. On va se rattraper. On marque une pause. Marlène Schiappa avec nous dans Culture Média sur Europe 1. À tout de suite. En compagnie de Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté, vous publiez depuis hier un podcast « Oser l'engagement » disponible sur Magellan, donc depuis hier. Dans l'épisode 2 de ce podcast, étant 6 épisodes et aussi une présentation, un propos préliminaire, vous expliquez qu'on vous a souvent vu comme une personnalité qui réagit trop souvent et à trop de choses. À l'époque, votre stratégie, c'était « ne rien laisser passer », dites-vous, on écoute.
Moi, personnellement, au début, je répondais à tout, tout le temps. Sur tous les sujets, je ne laissais rien passer justement, y compris dans le privé. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais attendre de voir quels sont les combats qui doivent être menés, parce que c'est aussi épuisant, parce que vous pouvez pas endosser votre propre rôle, vous caricaturer vous-même sans cesse et être la personne qui intervient à chaque écart de langage, à chaque faute, etc.
Est-ce que la situation a vraiment changé aujourd'hui, Marlène Schiappa? Vous réagissez quand même beaucoup.
Bon, en fait, non, mais je vais vous dire... je vais vous dire, en fait, j'ai les qualités de mes défauts, les défauts de mes qualités. Vous l'avez dit en introduction. En fait, j'imprime, comme on dit dans le milieu politique. C'est-à-dire qu'il y a, j'ai des collègues qui vont essayer de parler et peut-être on va pas le retenir ni négativement ni positivement. Moi, dès que je dis quelque chose, je fais un tweet, ça fait une dépêche AFP.
Oui.
Et j'ai beau faire, par exemple, un tweet alors que je n'en ai pas fait autre que factuellement je suis ici, je suis en train de voter telle loi, etc. Si je fais un tweet de prise de position, c'est mon premier en 3 mois. Il y a une dépêche et on se dit, oh là là, encore un tweet de Marlène Schiappa.
Mais alors, c'est peut-être celui que j'ai relevé. Écoutez, c'était il y a une semaine, vous avez attendu 45 minutes seulement, c'est même pas une journée, c'est 45 minutes. Éric Zemmour se rend au salon de la sécurité intérieure Millipol. Il prend un fusil, il le pointe en direction des journalistes en riant. Il est 10h30, à 11h15, vous écrivez sur Twitter, viser des journalistes avec une arme en leur disant reculer n'est pas drôle, c'est horrifiant, surtout après avoir sérieusement dit vouloir réduire le pouvoir des médias dans une démocratie. La liberté de la presse n'est pas une blague et ne doit jamais être menacée. Éric Zemmour réplique, vous traite d'imbécile devant les caméras, Question, est-ce que vous n'auriez pas pu ne pas réagir jour-là et vous éviter une polémique ?
Si, mais en fait, dans la vie, comme je le dis dans le podcast, je ne cherche pas à plaire, je cherche à convaincre. Dans la vie, on peut ne rien mener, on peut ne rien faire, on peut ne rien dire et se dire « bof », à chaque fois qu'il se passe quelque chose.
Je
moi, ce n'est pas mon tempérament.
Je suis dans mon cœur de sujet, c'est dans votre podcast. Vous êtes à un moment donné
exactement.
À l'Assemblée nationale, il y a un orateur qui dit quelque chose qui vous fait bondir, et le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, vous dit « calme-toi, ne dis rien,
ah non, il me
sois
dit pas,
stoïque ».
Non, il ne me dit pas « calme-toi ». En fait, c'est non, pas du tout.
J'ai oublié le terme exact.
C'est pas la même chose. En fait,
il vous dit « ne réagis pas ».
Je suis lynchée par les sénateurs et les sénatrices pour faire l'émission de Cyril Hanouna. Il y a des centaines de personnes, donc dans le Sénat, des centaines de sénateurs et de sénatrices qui me sifflent et qui me huent simultanément. C'est un peu Blandine dans la fosse au lion, quoi.
Parce que vous alliez faire l'émission ou parce que vous l'aviez
fillette ? Parce que j'allais faire l'émission. Et en gros, je leur dis, c'est du mépris de classe, mesdames et messieurs les sénateurs. Il n'y a pas une élite qui a le droit de s'occuper des affaires du pays. Et les gens qui regardent l'émission de Cyril Hanouna, qui seraient des sous-citoyens et qui n'auraient pas le droit de prendre part au grand débat et de parler politique. Donc oui, les membres du gouvernement doivent parler à tout le monde. Et donc ils me huent, mais c'est pas grave, je sais que je vais être huée en disant ça, j'assume. Et en fait, le président du Sénat me fait une remarque en disant, lui, il me dit, faites dans la modération, mais pour faire une pique. Et donc, il sort un peu de son rôle. Et donc là, je me retourne. Et là, effectivement, il y a Édouard Philippe qui met sa main, le Premier ministre, qui met sa main devant sa bouche et qui me dit, n'entre pas en débat avec le président du Sénat. Et il me regarde comme ça. Et donc, je lui fais signe de la tête, OK. Et donc, je reste calme et je réponds très calmement en disant, ne vous en déplaise, on ne résout pas les problèmes de 2019 avec des solutions de 1999. Et je pose mon micro et je m'en vais.
C'est pas tout à fait raconté comme ça dans le podcast, mais le fond, c'est exactement ça.
Ouais.
Je reviens sur votre réponse à la polémique Zemmour. Cette séquence est devenue très médiatique et elle est absolument passionnante parce qu'elle dit beaucoup de choses du débat actuel.
Ouais.
Faut-il ou non répondre à Éric Zemmour ? Certains ministres ont fait le choix de ne pas lui répondre et on vante certains le choix de lui répondre. On va entendre Philippe Corbet, c'est le chef du service politique de BFM qui a pris la parole sur l'antenne pour exprimer son malaise.
Ouais. Je vais vous dire, on va pas faire la campagne comme ça. Ça va pas être possible. Parce que cette séquence vidéo de Éric Zemmour provoquant la presse en se mettant en scène avec une arme, nous n'avions pas décidé de la diffuser, par exemple. Parce que nous considérons que c'était lui, en fait, campagne, il se met en scène. Il sait très bien ce que cette image, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, va provoquer. Nous avons décidé de ne pas la diffuser. Mais à partir du moment où une ministre décide de rentrer dans ce débat, de pointer du doigt ce que dit Éric Zemmour, que Éric Zemmour répond à la ministre, que la ministre répond à la réponse d'Éric Zemmour, ça devient un fait politique et donc nous le traitons.
Qu'avez-vous à répondre à Philippe Corbet ?
D'abord, comme je suis attachée à la liberté de la presse, chacun fait ce qu'il veut. Et Philippe Corbet, comme tout autre journaliste, j'ai pas à faire de commentaires sur ce que font les journalistes. Mmh. Ensuite, je veux dire que BFM passait Éric Zemmour toute la matinée, comme les autres chaînes de télévision. Il y a ce déplacement d'Éric Zemmour. Moi, je suis pas au déplacement avec Éric Zemmour. Si les chaînes d'Info en continu n'étaient pas en train de diffuser le déplacement et ces images, je n'aurais pas su ce qui s'était passé. Comment je le sais ? Je le sais parce que c'est filmé et que c'est transmis et que c'est diffusé par des journalistes qui sont sur place, qui le diffusent sur les chaînes d'info et ou qui le live tweet, qui disent « Nous sommes là, Éric Zemmour a fait ci et ça ». Et donc moi, j'en déduis que, en fait, dans ce débat, vous avez le droit de parler...
Je me permets de vous interrompre parce que Philippe Corbet dit qu'il ne souhaitait pas diffuser cette séquence. Vous dites que BFM la diffusait, cette
séquence.
Non,
je dis que BFM a suivi Éric Zemmour dans ce salon et est passé en boucle Éric Zemmour depuis
oui,
le matin.
Oui, mais peut-être pas la séquence où il vise les journalistes avec une arme. Bah, c'est celle-ci qui a créé la polémique.
Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un choix éditorial. Ça veut dire qu'éditorialement, on décide de ne pas diffuser le fait qu'il est filmé, mais il y a d'autres chaînes qui l'ont diffusé. LCI, Paul Larouturou, le journaliste qui est sur place et qui est visé, la diffuse. Anne-Sora Dubois fait le live tweet. C'est elle qui m'apprend les insultes d'Éric Zemmour à mon endroit en les live tweetant avec des capsules vidéo. Il y a d'autres journalistes qui sont présents, qui font aussi des capsules, qui les diffusent. Et en fait, pourquoi je réagis à cela ? Parce que c'est une position qui lie une position politique, c'est une réaction de fond. 48 heures avant, Éric Zemmour avait dit « Les médias et les journalistes ont trop de pouvoir, il faut les réduire » et viser avec un fusil en disant « Ça rigole moins », je considérais que c'était une illustration de cette position politique de fond. Mais ce que j'allais vous dire, c'est qu'en gros, si on écoute Philippe Corbet, ça veut dire que Éric Zemmour, le sujet Éric Zemmour, vous avez le droit d'en parler si c'est pour le suivre partout dans ses déplacements. Vous avez le droit donc de relayer ce que lui souhaite qu'on relaye. Mais dès lors que vous critiquez Éric Zemmour, vous dites « Oulala ! Oulala, vous critiquez Éric Zemmour, vous faites le jeu d'Éric Zemmour, faut pas critiquer, faut pas dire du mal d'Éric Zemmour. » En gros, on a donc le droit dans le débat public de relayer Éric Zemmour et de le filmer partout où il va et de le diffuser matin, midi et soir. On a le droit d'en dire du bien, mais dès lors qu'on en dit du mal, on nous dit qu'on fait le jeu d'Éric Zemmour. Ça veut dire quoi ? Tous les gens qui sont contre les positions d'Éric Zemmour doivent se taire et regarder le show, le Truman Show permanent d'Éric Zemmour. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et encore une fois, c'est la démocratie qu'on diffuse ce que dit Éric Zemmour. C'est le choix des journalistes. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais j'ai aussi le droit de dire que je suis en désaccord avec ses propos.
Et on a également vu cette pétition de journalistes qui ont choisi, qui sont plus de 150 de mémoire, qui ont choisi de ne plus parler de ce que fait Éric Zemmour. Vous parliez de Cyril Hanouna. Vous déclariez en avril dernier dans M, le magazine du Monde, à son propos, c'est lui qui devrait co-présenter le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle parce qu'il a été un des premiers à prendre au sérieux le mouvement des Gilets jaunes. Fin de citation. Vous persistez, vous signez.
Alors, je me suis exprimée là-dessus, mais ça a été un tout petit peu raccourci. Et
alors,
c'est
temps,
génial dans la vie de ministre que vous allumez la radio, vous ouvrez le journal et vous apprenez ce que vous pensez.
Ici, vous avez le temps d'expliciter.
Je vais expliciter ce que j'avais dit à l'époque et ce que je confirme. Je pense qu'il faut renouveler le débat d'entre-deux-tours. C'est un vrai sujet médiatico-politique. Le débat d'entre-deux-tours tel qu'il existe depuis Valéry Giscard d'Estaing, je pense qu'il n'est plus adapté à la période qu'on vit avec les réseaux sociaux, la participation, les nouvelles formes d'émission. Et d'ailleurs, les débats politiques dits classiques, comme ils se faisaient au XXe siècle, ils ne font pas d'audience. L'émission politique consacrée à Valérie Pécresse à 20h50 sur le service public a fait à peu près autant, peut-être moins d'audience que les pics d'audience qu'on a fait avec Cyril Hanouna dans notre émission, alors que je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle.
Parce qu'en face, il y avait le débat Mélenchon-Zemmour. Mais revenons à Cyril Hanouna. Est-ce que vous persistez à signer? Est-ce que c'est lui qui devrait présenter le débat d'entre-deux-tours de la présidentielle?
Moi, je pense qu'on n'aura pas cette année, c'est une prédiction que je fais et en même temps un souhait, je pense qu'on n'aura pas un seul débat d'entre-deux-tours. Je pense qu'il faut des débats thématiques, je pense que le débat d'entre-deux-tours, c'est un exercice qui est très réducteur et je pense qu'il est assez sain qu'il y ait des débats qui soient aussi des débats thématiques. Il y a des sujets dont on ne parle pas, par exemple, dans ces débats. L'égalité femmes-hommes. En 2017, on n'a pas parlé des questions d'égalité femmes-hommes. Moi, j'ai accompagné le candidat Emmanuel Macron dans tous les débats. À aucun moment, on n'a parlé d'égalité femmes-hommes.
Je garde cette idée en tête. On l'a vu avec le débat des Républicains. Il y a 4 débats qui seront organisés sur différentes chaînes.
Juste pour une primaire.
Et qui se termineront sur France 2, si je me souviens bien. Merci beaucoup, Marlène Schiappa.
Merci
je rappelle
vous.
Que vous êtes ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté. J'y suis arrivé.
Bravo.
Votre podcast, Oser l'engagement. Merci pour ce bravo. Disponible sur Magellan depuis hier. Dans